En Mauritanie, il y a une communauté dénommée les Haratines, qui est à la fois victime du racisme et de l'esclavage. Cette communauté représente 45% de la population mauritanienne. Ce sont donc des hommes, des femmes, des enfants qui travaillent sans être payés, qui sont vendus, loués, échangés, hérités, battus et tués si besoin. Comme bon nombre de négros mauritaniens, Mohamed Ould Siré est né Haratine. Pour lutter contre une réputation préjudiciable et profiter des mannes de l'aide internationale, le gouvernement mauritanien s'est alors employé à promouvoir quelques Haratines aux plus hautes fonctions de l'État. Ainsi, Mohamed Ould Siré a eu la possibilité de faire des études. Il obtiendra une maîtrise et un DEA de sciences politiques. Mais sa brillante carrière ne lui a pas permis de faire oublier ses origines. Même haut fonctionnaire, le Haratine reste un esclave, un serf, un bon nègre, lui disent ses supérieurs. Nommé consul général en Guinée-Bissau, il n'aura pas un seul jour de vacances et son salaire ne lui sera pas versé pendant plusieurs mois. En 1995, de nombreux Haratines sont massacrés ou emprisonnés et Mohamed Ould Siré songe à s'enfuir. Diplomate et esclave, Mohamed Ould Siré est aujourd'hui demandeur d'asile à Paris. Il a fondé une association, l'Association des Haratines de Mauritanie en Europe, et publie un journal, Le Cri du Haratini, afin de mobiliser l'opinion africaine, européenne et internationale sur la persistance de l'esclavage en Mauritanie.
L'esclavage a été aboli en Mauritanie le 12 décembre, par un décret du 12 décembre 1905, sous la colonisation. La France a passé 5 ans ou 6 ans à appliquer l'abolition, mais après, les mots ont mis la France en difficulté en créant une insécurité dans la colonie. Et les mots ont réussi à signer un accord avec la France. La France a accepté l'esclavage, en contrepartie la sécurité sur la colonie.
Alors ça c'était quand exactement, cette période-là?
Autour des années 1909-1910, quelque chose comme ça. Et donc à partir de là, la France n'avait plus la volonté de pratiquer l'abolition, ses propres textes, et donc elle a laissé l'esclavage un peu se perpétuer tout en gardant le territoire. C'est un peu ça.
Et après l'indépendance alors?
Après l'indépendance, il y a une première abolition en 1981, l'ordonnance 81-234 du 9 novembre 1981. Cette abolition, cette ordonnance devrait être mise en application. Il n'y a jamais eu un décret d'application. Donc on a sorti cette ordonnance qui est conditionnée à des décrets d'application, mais ce décret d'application n'a jamais été sorti. Donc ce qui fait que, puisque les décrets d'application n'ont pas été sortis, il n'y a pas eu d'application. C'est dans cette ordonnance, on disait que les maîtres devraient être indemnisés. Or, cette indemnisation aussi n'a pas été faite. C'est-à-dire que l'ordonnance n'a pas été mise en pratique.
Alors voilà. Aujourd'hui, qui est esclave?
Ce sont des Noirs qui, dans le cadre de la traite transsaharienne, ont été asservis par les mots.
De génération en génération?
Depuis longtemps, dans le cadre de la traite, 2000 ans, peut-être plus, les Berbères d'abord asservissaient les Noirs. De réduire à l'esclavage. Puis les Arabes, à partir du 11e siècle, dans le cadre de l'islamisation et les djihad, on a aussi asservi. Et donc c'est devenu une habitude de venir piller, faire des razzias et prendre des Noirs du Sénégal, de Mauritanie et en profondeur de l'Afrique pour les asservir à l'esclavage. Et c'est cet asservissement qui a produit les Haratines que nous sommes. C'est une communauté forte de 45% de la population. 3 millions, 4 millions, c'est beaucoup. Certains même extrapolent pour dire que nous faisons 55% de la population. Alors donc, voilà une majorité de population qui est aujourd'hui sous domination. Des Maures, domination des Maures, c'est-à-dire des Arabes et des Berbères qui sont en fait les Maures.
Alors vous, quelle est votre situation? Vous êtes en France aujourd'hui, vous êtes exilé de Mauritanie, comment ça s'est passé? Quel est votre parcours?
Vous savez, en fait, j'ai pu bénéficier de l'enseignement, j'ai pu aller à l'école, j'ai eu mon bac en 1974. Et j'ai fait l'ENA de Mauritanie, Bac plus 2. Je suis venu à l'extérieur et j'ai été diplomate à Paris pendant 12 ans. Et j'ai eu une promotion de consul général en Guinée-Bissau, à côté du Sénégal, un pays qui est au sud du Sénégal. Et là, j'ai eu des difficultés parce qu'il y a des Maures qui font le commerce et qui ont des esclaves dans cette ville. Et j'ai aboli des esclaves parce qu'ils ont porté plainte. Et mes difficultés ont commencé là. Et il y a un autre problème qui m'a vraiment été le coup fatal, c'est qu'il y a un marabout qui voulait hériter d'un esclave décédé. Et j'ai refusé cet héritage-là. Et il est porté par le président de la République. Et il lui a dit qu'il a fait toute une histoire sur moi. Pour... Et puis voilà. Et puis, alors, on m'a créé des problèmes parce qu'effectivement, on a voulu me salir. On a prétendu que j'ai détourné l'argent. En fait, c'était lorsque je me suis maintenu ma position sur la question de l'esclavage. On m'a déconseillé cela par les affaires étrangères. On a essayé de me mettre dans des difficultés. Et quand j'ai vu, effectivement, qu'il me cherchait à me créer des problèmes, j'ai été rappelé à Nouakchott de ce fait pour toutes ces raisons. Et effectivement, j'ai décidé de venir en France. J'ai passé à Dakar et j'ai vu l'ambassadeur de France qui m'a fait un visa. Je suis venu ici demander le droit d'asile. Et quand j'ai eu l'option du droit d'asile, j'ai créé l'association des Haratines de Mauritanie en Europe depuis 2001.
D'accord. Et en Mauritanie, est-ce que ce militantisme-là, contre justement pour les Haratines et pour l'abolition de cet esclavage, comment est-ce que c'est reçu là-bas en Mauritanie?
Vous savez, en réalité, les Maures, l'État, les féodaux, la féodalité ne veut pas de l'abolition de l'esclavage et n'entend pas laisser les Haratines se libérer.
Pourquoi selon vous?
Et n'entend pas laisser les Haratines se libérer. De ce fait, comme l'État est investi par les Maures qui sont eux-mêmes des esclavagistes, donc l'esclavage, en fait traditionnel, est cautionné par l'État. L'État est complice. Ce qui fait que le dernier régime qui est tombé le 3 août 2005 niait l'existence de l'esclavage. On dit que l'esclavage n'existe pas.
Et en réalité
En réalité, il est là. C'est une réalité palpable, visible. Personne ne peut cacher ça. Il y a des associations qui les dénoncent sur place, mais elles ne sont pas reconnues. SOS Esclaves, par exemple, qui est une association qui a été créée en 1995, qui dénonce ce problème-là, mais n'était pas reconnue jusqu'à une date récente. Et donc, on veut taire l'esclavage, on camoufle l'esclavage.
C'est comme une tradition qui se perpétue, c'est vous qui avez utilisé le terme de tradition, expliquez-nous ça. Parce que pour ceux qui connaissent peut-être mal la culture mauritanienne, c'est important de le souligner.
Je vais vous dire, l'esclavage est anti-islamique, c'est-à-dire qu'il a précédé l'islam. Bien avant 1500 ans, l'esclavage existait du fait des Berbères et du fait des Arabes en Arabie. Avant qu'ils ne viennent même en Mauritanie. Il y avait des traditions qui justifiaient l'esclavage. Donc c'est quelque chose qui est ancré dans les esprits, dans les mentalités. Et les esclaves, excusez-moi, sont éduqués partout dans la littérature, la poésie, les traditions, pour dire qu'ils sont esclaves et inférieurs. Et ils acceptent cette infériorité. Ils l'intériorisent eux-mêmes du fait de l'éducation. Quand l'islam est venu, l'islam a voulu progressivement affranchir les esclaves. Ils ne pouvaient pas, le prophète ne pouvait pas affronter l'aristocratie arabe qui était détentrice de pouvoir. Il a voulu donc passer en douce pour affranchir les esclaves. Il a prôné l'affranchissement. Mais comme exemple, comme piété, mais ça n'a pas été suivi de fait parce qu'on a maintenu l'esclavage. Et l'islam reconnaît et tolère l'esclavage. Donc, de ce fait, on considère aujourd'hui, et en Mauritanie en particulier, par une falsification de l'islam, on considère que l'esclavage est justifié par l'islam. Et ce discours islamique est venu s'ajouter aux traditions anciennes. C'est ce qui justifie aujourd'hui que pour tous les Haratines, pour les victimes de l'esclavage, l'esclavage vient de Dieu, vient d'Allah, il ne vient pas des hommes. Et c'est ce que les maîtres disent en s'adressant à leur esclave. Ils disent, c'est pas nous qui vous asservissons, c'est le Coran qui vous asservit, c'est l'islam qui vous asservit. Et ce statut vous a été donné par Dieu. Donc si vous contestez ce statut, vous contestez le pouvoir de Dieu.
Kembu tu kenyai.
Par exemple, on peut être esclave à partir de quel âge? Enfant, comment ça se passe?
On est esclave, c'est inné.
C'est-à-dire qu'un propriétaire...
C'est un statut d'esclave qui est inné. Par exemple, moi je suis esclave, ma femme, ma mère est esclave, mon
et
père est esclave.
Et vos enfants?
Ils sont esclaves. Ils sont propriétaires du maître qui est là. Il peut les vendre, il travaille pour lui sans être payé, il peut les louer, il peut les donner, il en dispose comme un animal. Et donc ça s'hérite. Si le maître décède, ses enfants héritent de ses esclaves, comme les animaux, comme une maison, comme un meuble, comme le statut du code noir, où l'esclave avait le statut d'un meuble. C'est exactement la même chose.
J'insiste, hein, mais aucun militantisme, aucune opposition en Mauritanie par rapport à ce fait-là.
Très timidement de la part des Maures. Des partis d'opposition Maures qui contestent le pouvoir, la dictature qui était là, qui vient d'être remplacée par un autre système dont on n'est pas encore... On ne sait pas le vrai visage. Il y avait une opposition qui contestait le pouvoir. Mais elle ne pose pas le problème de l'esclavage dans sa véracité. C'est-à-dire qu'elle veut utiliser les haratines comme étant des militants, comme des clients, des clientèles politiques, mais ils ne veulent pas s'attaquer au problème. Il y a certaines associations qui timidement aident d'autres associations comme les esclaves dont je vous ai parlé, mais ils ne posent pas le problème réellement comme étant un problème qui doit être réglé d'une manière définitive, et notamment dans la Constitution, pour que l'esclavage soit criminalisé et qu'il puisse être condamné. Aucune loi en Mauritanie, ni dans la Constitution, ni des textes réglementaires, ne désigne l'esclavage comme étant un crime. Et donc c'est pour ça que ça se perpétue, parce que tout simplement, ça, dans l'intérêt de la féodalité, Mau et l'État est en prolongement. Je vais vous dire, les ministres ont des esclaves, les ambassadeurs ont des esclaves. Les grands fonctionnaires Maures ont des esclaves, chez eux, dans les villes, dans leurs appartements. Comment voulez-vous que... Donc, ils ne veulent pas s'en débarrasser, ils n'en veulent pas. L'État est investi par ces gens-là. C'est leur État, en fait. L'État n'est pas le reflet de la population mauritanienne, puisque celle-ci est composée d'Haratine. Le système exclut les esclaves qui sont 45%. Donc, ce sont les Maures qui sont là, comme le système romain, le système grec, où les esclaves n'étaient pas des citoyens. C'est exactement ce qu'il y a, l'esclavage ancien, dans sa forme antique. ce qui se pratique en Mauritanie.
Alors concrètement, quels sont vos moyens d'action? J'imagine déjà en parler, là, vous êtes présent aujourd'hui à la Fête de l'Humanité, donc c'est signer des pétitions, c'est peut-être médiatiser et porter haut et fort cette revendication. Concrètement, comment est-ce que vous vous y prenez? Donc vous avez créé l'association des Haratin de Mauritanie en Europe. Quels sont vos moyens d'action?
D'abord, on a créé un journal qui s'appelle Le Cri des Haratin, donc Le Cri de l'esclave, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il était trimestriel, il est devenu semestriel. Ça nous permet de porter l'information relative à l'esclavage en Mauritanie au public européen, français, pour qu'il sache l'existence de l'esclavage. Ça, c'est le premier point. Ensuite, en 2004, on a créé un site qui porte les témoignages, des articles, des interviews. Tout ce qu'on peut avoir sur la question de l'esclavage, il figure. Donc www.haratine.com.
Et où est-ce qu'on peut se procurer le magazine également?
Le magazine, on peut le procurer chez nous. On a notre adresse qui est
à l'association
AHM Maison des Sociétés 3 Allée Fernand Lendé, 83 390 Clichy-sous-Bois. Et si vous allez sur le site, vous pouvez aussi trouver notre email et nous contacter.
D'accord, Mohamed Oulsiri, merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage. Merci beaucoup.
ليس في القلب سوى